Et tout de suite, vous retrouvez Marion Cazeneuve pour le journal d'Haïti et des Amériques.
Mais merci, Anne Mignard. À la une, la paix avec les groupes armés, la lutte contre la corruption et les inégalités. Gustavo Petro arrive au pouvoir en Colombie avec de nombreuses promesses. Le premier président de gauche du pays a prêté serment hier. On en discute dans un instant avec notre invitée Angelica Montes Montoya. Cette victoire importante pour Joe Biden, le président américain, à 3 mois des élections de mi-mandat. Il a réussi à faire passer au Sénat sa grande réforme sur la santé et le climat. En Haïti, on évoquera l'assassinat d'un ancien sénateur et de son chauffeur. Ce sera dans la revue de presse de Justine Fontaine. Et puis au programme du journal de l'Outre-mer, on parlera de cette étrange maladie qui frappe les oursins noirs en Guadeloupe.
Juro a Dios y prometo al pueblo.
Et c'était hier à Bogota l'investiture du nouveau président Gustavo Petro, premier président de gauche de l'histoire du pays. Il a prêté serment devant des dizaines de milliers de personnes, parfois très émues. Écoutez.
Croyez-moi, j'ai envie de pleurer de joie. On a attendu 50 ans pour voir ça, pour voir un homme du peuple prendre la place de tous ces voyous qui ont conduit le pays au désastre.
Pour nous, ça représente un changement historique. Nous, les femmes noires, les femmes afro, les femmes victimes de la violence, nous sommes heureuses. Le changement a déjà commencé.
Des Colombiens et Colombiennes au micro de notre correspondante Marie-Ève De Teuf. Gustavo Petro donc s'est fait élire sur un programme social promettant de combattre les inégalités et la corruption, mais aussi il a promis de ramener la paix avec les groupes armés. On en parle aujourd'hui avec notre invitée Angelica Montes Montoya. Bonjour.
Bonjour Marion, merci pour cette invitation.
Et merci à vous, vous êtes doctorante en philosophie, spécialiste de l'Amérique latine. Alors la paix avec les groupes armés promise par Petro, c'est peut-être l'un des enjeux, l'une des promesses les plus importantes de ce mandat. On sait déjà que le principal groupe dissident des FARC a proposé un cessez-le-feu. Le président lui-même est un ancien guérillero. Sans surprise, lors de son investiture, il a déclaré qu'il était ouvert au dialogue avec les groupes armés. Angelica Montes Montoya, son arrivée au pouvoir peut-elle calmer les tensions justement avec certains groupes?
Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à que la seule présence des nouveaux présidents et la vice-présidente Marquez puisse donner naissance immédiate à un accord de paix avec l'ELN. Je pense qu'il faudra une mise en confiance réciproque et la mise aussi en place des mécanismes de négociation entre ces guérillas et les nouveaux gouvernements. Il est vrai que la Colombie a déjà l'expérience dans les processus de paix suite à son accord avec la FARC, mais je crois que chaque acteur armé est très particulier. Le ELN n'a pas les mêmes histoires des FARC, donc j'imagine que les accords ne sont pour tout de suite, ne vont pas avoir lieu. Ça va démarrer, mais ça va prendre son temps.
Mais il change, Gustavo Petro change quand même de cap par rapport à Iván Duque qui, lui, avait même relancé les hostilités contre les différents groupes armés.
Oui, tout à fait. Le ministre Leyva, ministre des Affaires étrangères, reprend justement là où M. Duque a abandonné les accords de négociation. Et on revient aussi à La Habana et on revient aussi avec des gens qui sont convaincus, et pétroliers, et Francia Marquez et l'équipe de gouvernement de Petro sont convaincus que c'est que la paix, la seule issue pour finir avec la situation de précarité en sécurité et économique de la Colombie.
Et dernier fait en date, aussi le clan del Golfo, l'un des cartels de drogue les plus puissants au monde, a annoncé hier un cessez-le-feu unilatéral, tandis que dans son discours, Petro, lui, a visé la fin de la guerre antidrogue pour une politique de prévention à la place. Là aussi, est-ce que sur ce terrain-là, on peut s'attendre à un apaisement?
Peut-être un apaisement, mais ce n'est pas la première fois que les clans de Golfo proposent justement un arrêt des hostilités. On n'est pas à la première tentative de négociation ou d'apaisement de conflits armés avec ces groupes. Donc, j'essaierai beaucoup plus, prendrai plus de précautions concernant les clans de Golfo. Ça reste quand même un groupe criminel qui, au gré des conjonctures, se prononce régulièrement concernant l'arrêt de ses activités illégales.
Gustavo Petro s'est aussi fait élire en promettant de combattre les inégalités et la corruption. Mais ce ne sera pas une mince affaire puisque le pays est très inégalitaire justement. Quels sont précisément les défis qui attendent le nouveau président de ce côté-là? Comment est-ce qu'il compte s'y prendre?
Vous l'avez dit, hein, il y a, si on écoute Petro, et pas que lui, aussi la vice-présidente Marquez et son équipe, il y a beaucoup de réformes à faire. Ça va de la réforme fiscale, santé, et éducation, travail, etc. Mais je crois que tout le monde s'accorde à dire qu'au moins il y a trois réformes urgentes, la réforme fiscale, la réforme du système de santé et la réforme à la police. Concernant la réforme fiscale, elle est urgente parce que 12% de la population colombienne est en état de pauvreté extrême. Et la priorité, c'est justement de mettre en place une réforme fiscale qui cherche à taxer les 10% les plus riches de la Colombie, qui détient les 70% de la richesse du pays. Donc, l'idée, c'est justement de créer un système fiscal solidaire qui ne voit pas, comme le président l'a dit, la fiscalité comme un châtiment, mais plutôt comme la participation solidaire au changement et la transformation positive du pays.
Et comment financer cette réforme fiscale?
La réforme fiscale, c'est pas comment la financer, mais si on va réussir à la mettre en place, parce que cette réforme fiscale met l'accent notamment sur la taxation des 10%, comme je venais de le dire, les plus riches, ça veut dire tout ce qui est le propriétaire terrain, mais aussi les entreprises. Et aussi le capital d'investissement dans le pays. Donc, c'est une réforme un peu, on va dire, progressiste, qui cherche à rassurer les investisseurs, à rassurer les capitaux investisseurs colombiens, tout en le rappelant qu'aucun pays ne peut pas dépasser la pauvreté sans un véritable mouvement de solidarité, un élan de solidarité partagé, notamment pour ceux qui sont les plus fortunés.
Et il y a eu en Colombie l'an dernier un mouvement de contestation sociale. Où est-ce qu'on en est dans ce mouvement? Quelles sont les attentes de ces manifestants?
Pour le moment, ils sont apaisés. Ces mouvements ont beaucoup œuvré justement pour cette transformation historique du pays qui aujourd'hui passe à gauche. Et ils vont probablement donner un temps d'attente, voir qu'est-ce que ça va donner les premiers 3 mois de gouvernement de Petro. Ils sont, on va dire, contents, ils sont enthousiastes. On verra bien d'ici 3 mois si le gouvernement peut et réussit finalement à mettre en place au moins des éléments essentiels et clés concernant la réforme fiscale, la santé et peut-être aussi une attention particulière à la politique d'éradication de la malnutrition, notamment au nord du pays et du côté du Pacifique.
À l'international, Angélica Montes-Montoya, ce changement de gouvernement risque de changer aussi la donne. C'est la première fois que la Colombie, je le disais, se dote d'un président de gauche. D'ailleurs, le Venezuela et la Colombie ont renoué leurs liens diplomatiques hier à l'occasion de cette investiture. Comment est-ce que ça va se traduire, cette reprise des relations entre les deux pays?
Déjà, la relation historique entre la Colombie et le Venezuela est traversée par les rapports commerciaux, des échanges commerciaux. Donc, la frontière fermée et les tensions diplomatiques ont beaucoup, beaucoup frappé l'économie frontière des deux États. Et également, il y a une migration colombienne vers le Venezuela pendant des décennies et vice-versa maintenant, des Vénézuéliens vers la Colombie. Donc, il avait intérêt et nécessité d'apaiser ses relations, d'ouvrir ses frontières qui n'étaient pas complètement fermées. Hein. Il y avait quand même un flux permanent, mais maintenant, l'idée de à nouveau apaiser les relations avec l'idée aussi de réactiver la vie économique de la frontière et quelque part et accompagner au processus de stabilisation de la sécurité et de l'ordre dans la zone où il y a aussi des présences des narcos et aussi des guerrilleros dans la frontière.
Merci Angélica Montes-Montoya. Je rappelle que vous êtes doctorante en philosophie, spécialiste de l'Amérique latine. Merci d'avoir accepté notre invitation sur RFI.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Le président américain s'est félicité de l'adoption de sa grande réforme sur la santé et le climat, le Inflation Reduction Act. Réforme votée hier au Sénat, elle doit encore passer devant l'autre chambre du Parlement, la Chambre des représentants. Une loi historique car jamais des investissements n'auront été aussi conséquents pour lutter contre le changement climatique. C'est aussi une victoire pour Joe Biden à 3 mois des élections de mi-mandat, Lubna Anaki.
It's been a long, tough and winding road. At last, we've arrived.
La route fut longue, mais nous sommes arrivés. Face aux journalistes, Chuck Schumer ne cache pas sa joie. Le chef de la majorité démocrate au Sénat a mené lui-même les négociations durant 1 an et demi pour arriver à ce moment.
We've changed the world.
Nous avons changé le monde comme rarement on en a eu l'occasion. Notre plan réduit l'inflation, baisse les prix, crée des millions d'emplois industriels et augmente notre sécurité énergétique. C'est le plan le plus ambitieux de l'histoire américaine pour le climat.
Ce plan consacre en effet 370 milliards de dollars au climat avec pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030 aux États-Unis. Des crédits d'impôt sont notamment prévus pour l'achat de voitures électriques ou encore des subventions pour le solaire. Un plan ambitieux. Malgré tout, l'aile gauche du Parti démocrate Bernie Sanders en tête estime que de nombreuses mesures cruciales ont été sacrifiées lors des négociations. Le passage de ce plan, la pierre angulaire de la politique intérieure de Joe Biden, offre toutefois au président une victoire plus que nécessaire à 90 jours des élections de mi-mandat. Lubna Anaki, New York, RFI.
Bonjour, Justine Fontaine.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Pour la revue de presse, aujourd'hui, de nombreux journaux américains reviennent aussi sur l'adoption au Sénat de ce plan climat.
Oui, à 51 voix contre 50, le texte a été adopté sur le fil après plus de 16 heures de débat, malgré l'opposition unanime des élus républicains, précise le Washington Post. Le plan pourrait être approuvé par les députés dès cette semaine, car la Chambre des représentants est plus largement acquise aux démocrates. Le New York Times revient sur l'épopée politique qui a mené à l'adoption de ce plan climat. Depuis le mémo arrivé sur le bureau du président Richard Nixon en 1969, qui l'avertissait, je cite, du problème du dioxyde de carbone, en passant par l'obstruction répétée du camp républicain face aux tentatives précédentes de taxer les énergies polluantes. Si le texte a pu être adopté, c'est aussi en raison de catastrophes naturelles à répétition aux États-Unis, signe évident du dérèglement climatique partout dans le pays, souligne le journal.
Et à l'image des républicains, une partie de la presse émet des doutes concernant ce plan climat.
Oui, le Wall Street Journal, le journal des milieux d'affaires, publie plusieurs tribunes très critiques envers ces mesures, qui concernent aussi les prix des médicaments pour les plus modestes. Moins de médicaments et une énergie plus chère. Voici comment deux éditorialistes résument le plan adopté dimanche, soi-disant destiné à lutter contre l'inflation, disent-ils. Ces dispositions risquent de freiner la recherche financée par l'industrie pharmaceutique, alertent encore les deux hommes. Dans son éditorial, le même journal, proche des Républicains, assure que les prix des médicaments risquent d'augmenter pour les Américains qui disposent d'une assurance privée.
On reste aux États-Unis, Justine, avec cet autre sujet santé, un phénomène très particulier des salariés qui changent d'entreprise pour bénéficier du remboursement de traitements contre l'infertilité.
Oui, dans ce pays, votre couverture santé dépend généralement de l'assurance proposée par votre employeur. Le New York Magazine publie un long reportage avec notamment le témoignage de Rebecca Bell, une femme qui, après plusieurs fausses couches et des milliers de dollars dépensés pour essayer d'avoir un enfant avec son mari, a accepté un travail dans l'entreprise Amazon. Car le géant du commerce en ligne propose à ses salariés une assurance santé qui couvre les frais de fécondation in vitro. Mais après seulement une semaine de cadence infernale dans un entrepôt de nuit, elle a dû arrêter, pliée en deux par la douleur. En théorie, l'entreprise vous propose des avantages, comme cette assurance santé, dit-elle. Mais en pratique, ce travail casse littéralement votre corps, conclut amère l'ancienne salariée qui a quitté l'entreprise.
Et vous nous emmenez à présent à Cuba, Justine, où un incendie ravage un dépôt pétrolier depuis vendredi.
C'est à la une de toute la presse cubaine. Un énorme nuage de fumée noire aux reflets rouges au-dessus des réservoirs d'hydrocarbures de Matanzas, à 100 km de la capitale, la Havane. Le feu a été provoqué par la foudre qui a frappé le premier réservoir. un premier réservoir vendredi soir. Il n'est toujours pas maîtrisé. Le président Miguel Díaz-Canel s'est rendu à Matanzas superviser les opérations des pompiers et des secours, souligne le quotidien du Parti communiste Granma. Mais une nouvelle explosion a ensuite eu lieu hier soir, rapporte le journal Cuba Debate, affilié au régime. Trois réservoirs sont maintenant touchés. Au moins une personne est morte, plus de 120 autres sont blessés et 17 pompiers sont portés disparus, souligne 14 y medio, un média d'opposition. Ce gigantesque incendie survient alors que l'île manque déjà de carburant depuis des mois et n'a pas assez de pétrole pour alimenter ses centrales électriques vieillissantes. Les coupures d'électricité répétées ont provoqué plusieurs manifestations cet été et elles avaient déclenché l'an dernier le plus grand mouvement social dans le pays depuis la révolution de 1959.
En Haïti, à présent, le journaliste d'Alter Presse et d'Alter Radio enlevé le 17 juillet est libre.
Oui, c'est ce qu'a annoncé sa famille à l'agence haïtienne vendredi. Alter Presse publie une lettre rédigée par Edner Dessim après sa libération. « Comme beaucoup de compatriotes avant moi, j'ai fait la triste et macabre expérience de la privation de ma liberté », écrit-il. « Les quartiers où j'ai traîné mon micro sont devenus mon lieu de séquestration, mais je ne regrette pas d'y avoir fait mon travail », conclut le journaliste.
De son côté, le Nouvelliste rapporte l'assassinat d'un ancien sénateur haïtien.
Yvon Buisserette, qui était encore jusqu'à ce week-end directeur de l'entreprise publique pour la promotion des logements sociaux, a été tué avec son chauffeur à La Boule 12 samedi, un quartier où sévit le chef de gang Timacac, précise le Nouvelliste. Les corps des deux hommes ont été retrouvés calcinés dans la région de Port-au-Prince. Le Premier ministre Ariel Henry a condamné leur mort.
Merci Justine Fontaine, c'était la revue de presse des Amériques.
Le journal de l'Outre-mer.
Et à la une, les oursins noirs, aussi appelés oursins diadèmes, sont frappés d'une étrange maladie en Guadeloupe. On voit ça avec vous, Alex Léveillé, bonjour.
Bonjour Marion. Et l'alerte a été lancée il y a 3 mois par des scientifiques de l'Université des Antilles et ceux de l'Ifremer. Les oursins noirs meurent massivement, en particulier dans le Nord Basse-Terre. Et afin d'identifier le mal dont sont victimes ces animaux, des travaux ont débuté. Éric Lefebvre de Guadeloupe la Première.
Il s'apprête donc à lancer une campagne d'échantillonnage destinée à identifier ce mal qui frappe cette espèce. Un mal qui, indique la communauté scientifique, est arrivé de façon soudaine et qui touche notamment les eaux de Ferry à Dehaye. Une véritable hécatombe foudroyante qui laisse les fonds marins jonchés de cadavres d'oursins avec leurs épines répandues au sol. Heureusement pour l'heure, les autres sites de l'archipel demeurent préservés. Mais la menace est prise très au sérieux. Les oursins tiennent en effet un rôle important dans l'équilibre des récifs coralliens, car ils aident à la régulation de la prolifération des algues. Des coraux qui sont eux-mêmes déjà fortement mis à mal par le réchauffement climatique. D'après les spécialistes, seuls 20 à 30% de ces polypes subsistent encore dans nos régions.
Éric Lefebvre de Guadeloupe la Première. Et on reste dans le monde de la mer des Caraïbes, mais cette fois-ci en Martinique. L'écomusée de la commune de Rivière-Pilote propose un stage d'initiation pour apprendre à souffler dans la conque de lambie, ce fameux coquillage qui permet aux lambies de se protéger. Christine Cupid de Martinique la Première.
Quand tu vas positionner la conque, d'accord, il faut que tes lèvres soient en position.
Conseil d'un maestro pour apprendre à souffler dans une conque de lambie. Les participants de ce stage d'initiation sont tous des novices et certains doivent redoubler d'efforts pour arriver à sortir un son.
Tu souffles trop fort. Essaye tout simplement de relâcher les lèvres quand tu as positionné la conque.
Je pense que ça y est, j'ai maîtrisé à peu près.
C'est la première fois que j'essaye de souffler dans une conque. Mais c'est pas facile. Hein.
Ça faisait quelques années que je voulais m'initier à la conque de lambie et je suis très contente.
J'ai pas pris beaucoup de temps pour souffler. Peut-être que j'ai un petit don caché. Je pense poursuivre.
Aujourd'hui, la conque de lambie est un instrument de musique. Mais autrefois, c'était le seul moyen de communication dont disposaient les habitants. Jean-Pierre Léandre, membre du groupe Ouattaboui.
On entend les avis d'obsèques aujourd'hui, mais avant, pas tenu ça. Hein. C'était effectivement la conque de lambie qui servait pour ça, mais qui servait pour autre chose aussi. Donc la conque de lambie a toujours été un élément fondamental du patrimoine.
Voilà, sujet tout en musique, signé Christine Cupid de Martinique, la première. C'est la fin de cette édition. Excellente fin de journée à tous.
Et merci Alex Léveillé pour le journal de l'Outre-mer. Et nous aussi, on se quitte. On se retrouve demain pour un nouveau journal d'Haïti et des Amériques à la même heure, 13h10, temps universel. Il me reste à remercier Claude Battista qui était à la réalisation aujourd'hui. Il est bientôt 15h30 à Paris, 13h30 en temps universel.